Et c'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. Partie de poker à Westminster aujourd'hui, l'opposition tentera de repousser le Brexit. Mais Boris Johnson a encore une carte dans sa manche, prêt à convoquer des élections anticipées le 14 octobre. Nous serons à Londres dans un instant. De l'eau jusque sous les toits, quand il en reste, des milliers de sinistrés. Les secours commencent à s'organiser aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. À la une également, les nouvelles propositions d'Agnès Buzyn pour désengorger les urgences, le Grenelle contre les violences conjugales et cette journée spéciale sur France Inter. Et puis la rentrée à droite, chacun dans son couloir, celui que vous recevrez tout à l'heure est donné favori pour la présidence de LR.
Oui, il s'agit de Christian Jacob, il préside déjà le groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Il est dans le grand entretien tout à l'heure. Réseaux sociaux, application France Inter et le standard au 01 45 24 7000 pour vos questions.
Dans ce journal, nous serons aussi en Guyane avec des militaires français qui luttent contre l'orpaillage sauvage qui abîme aussi l'Amazonie, avec un étudiant qui tente désespérément de se loger à Paris et au cœur de la mission Apollo 11, image inédite au cinéma demain.
France Inter.
Combien de semaines décisives n'a-t-on pas pronostiquées au Royaume-Uni ? Celle-ci en est une nouvelle qui verra tout à l'heure les députés reprendre le chemin de la Chambre des communes avant la suspension du Parlement la semaine prochaine. Ce sera le début des hostilités officielles contre Boris Johnson qui n'en démord pas. Le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne avec ou sans accord le 31 octobre, dit-il. Seulement voilà, les élus ne l'entendent pas comme ça. Correspondant de France Inter à Londres, Antoine Gignot est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour.
L'opposition, Antoine, va tenter de mettre Boris Johnson en minorité cet après-midi, mais le Premier ministre a plus d'un tour dans son sac.
Et il a surtout des méthodes musclées, le Premier ministre. Chantage, intimidation pour cette rentrée parlementaire qui ressemble à une reprise de boxe. L'équation est simple. Boris Johnson veut à tout prix éviter que l'opposition ne fasse adopter un projet de loi pour retarder le Brexit, mais il n'a qu'une très courte majorité à la Chambre des communes, une voix seulement, et une quinzaine d'élus conservateurs menacent de voter contre lui. Du coup, pour les faire rentrer dans le rang, il les menace de les exclure du parti. Et si ça ne suffit pas, s'il est mis en minorité lors du vote tout à l'heure, il se dit prêt à dissoudre le Parlement en déclenchant des législatives anticipées qui plongeraient le pays dans un chaos politique total. Techniquement, il a le droit de le faire, mais il lui faut, là aussi, le soutien des deux tiers des députés.
Alors, des élections anticipées, dit-on, le 14 octobre, c'est un pari sacrément risqué pour Johnson.
Absolument, parce qu'il pourrait perdre des sièges au Parlement, débordé à sa droite par Nigel Farage et les populistes, et à sa gauche par les libéraux-démocrates, qui se sont positionnés comme un parti anti-Brexit. Et puis, il reste aussi la possibilité d'une émergence du parti travailliste, même s'il est très bas dans les sondages. En fait, le jeu politique est tellement brouillé, tellement confus, expliquait hier plusieurs politologues, qu'il est impossible, ce matin, de faire des pronostics.
Antoine Gignot, envoyé spécial permanent au Royaume-Uni. Merci aux Bahamas. Dorian n'en finit plus. L'ouragan le plus violent qu'ait connu le pays est aussi le plus lent qui s'éternise sur l'archipel. On sait déjà qu'il y a au moins 5 morts, que 70 000 personnes ont été touchées. Christian Chéneau, les dégâts sont d'ores et déjà considérables.
Les autorités des Bahamas parlent d'une tragédie historique. Plus de 20 000 maisons pourraient être endommagées ou complètement détruites. C'est dans les îles Abacos et de Grande Bahama que les dégâts sont les plus importants. Les vents ont dépassé les 300 km/h. Facteur aggravant, le coefficient des marées est très haut en cette période de l'année. Les inondations ont atteint des niveaux records. Les autorités locales ont reçu d'innombrables appels à l'aide et préparent les opérations de secours, explique Darren Enfield, ministre des Affaires étrangères. Toutes les lignes électriques sont coupées, des arbres sont couchés dans les rues. C'est très dangereux de sortir dehors. Dès que la météo le permettra, nous interviendrons dans les zones où nous avons reçu des messages venant de personnes en détresse. Après avoir dévasté les Bahamas, Dorian devrait longer dans les prochaines heures la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord. Même si l'ouragan semble faiblir, il a été rétrogradé de catégorie 4 à 3. Les autorités américaines maintiennent la plus extrême vigilance.
Et des centaines de milliers d'Américains sont toujours appelés à évacuer. À l'instant, ce recul de Téhéran, alors qu'on comptait sur des progrès dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, le président iranien Hassan Rouhani à l'instant exclut l'idée de discussion bilatérale avec Washington et annonce qu'il pourrait réduire dans les prochains jours ses engagements sur le nucléaire. On y reviendra évidemment dans nos éditions ultérieures.
Et à 8h05, retour en France. Comment mieux organiser, Florence, des urgences débordées?
Peut-être avec ces annonces d'Agnès Buzyn hier soir. La ministre veut que les personnes âgées des EHPAD soient directement admises dans les services des hôpitaux, que le SAMU puisse transporter les malades vers des cabinets médicaux, ou encore que les infirmiers des urgences aient le droit de faire des sutures et de prescrire des radios. Voilà qui va dans le bon sens, selon François Braun, président de SAMU Urgences de France.
C'est une déclaration d'intention pour l'instant, mais qui va dans le bon sens et qui va dans une bonne compréhension de la problématique des urgences. On a l'impression enfin d'être compris. C'est-à-dire que la ministre propose des axes de travail sur l'amont des urgences, c'est-à-dire avant d'arriver aux urgences, en mettant la régulation médicale du SAMU et des médecins généralistes comme un point essentiel pour construire les parcours de soins. Dans l'organisation des urgences, avec la proposition que nous avions demandée et que nous souhaitons d'infirmières en pratique avancée, et puis enfin dans l'organisation de l'hôpital avec des filières spécifiques pour des patients pris en charge en urgence comme les personnes âgées. Donc on va bien dans le bon sens.
Voilà, une deuxième série d'annonces est attendue la semaine prochaine. 233 services d'urgence sont en grève qui ont reçu hier le soutien des syndicats de médecins.
Il est 8h07, c'est une journée spéciale sur Inter pour parler, Florence, des violences conjugales.
Des témoignages saisissants à écouter toute la journée et sur franceinter.fr. Un téléphone sonne ce soir et grand bien vous fasse à 10h, attendre vos interventions. Alors que débute aujourd'hui le vaste chantier d'un Grenelle qui va durer 12 semaines, plusieurs ministres, des associations, des familles de victimes sont attendues à Matignon où Édouard Philippe devrait faire des propositions. Le port obligatoire d'un bracelet électronique anti-rapprochement pour l'homme violent dès le premier dépôt de plainte notamment. Hier, c'est une femme de 92 ans qui a été tuée par son mari dans le Tarn. Il a depuis été hospitalisé en psychiatrie. À Cagnes-sur-Mer, où une jeune femme, on en a parlé, a été tuée samedi alors que des témoins de la scène avaient appelé la police. Une enquête est ouverte, l'IGPN a été saisi et Marion Chantreau, une centaine de personnes se sont rassemblées hier soir.
Les participants brandissent des pancartes sur lesquelles sont inscrits les prénoms des femmes mortes cette année sous les coups de leurs compagnons.
Les féminicides, c'est l'affaire de tous.
David Nakache, du collectif Tous Citoyens.
Si chacun d'entre nous ne se dit pas « c'est une affaire privée, ça me concerne pas », mais tend l'oreille, est présent, intervient si ça va trop loin, appelle la police et si la police est submergée d'appels, à ce moment-là, la réaction sera plus rapide.
La polémique enfle sur le délai d'intervention de la police. Sonia, mère de famille, habite le quartier.
Elle a mis du temps et apparemment, quand ils sont arrivés, ils n'avaient même pas une torche pour regarder, ils avaient juste un téléphone portable et ils éclairaient avec la lumière du téléphone. Ils n'ont rien vu, rien entendu et du coup ils sont partis. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'effectifs ce jour-là, mais bon...
Vous imaginez que la réponse judiciaire soit forte?
Tout à fait quand même, pour que ces actes soient réellement punis. On ne dit pas à perpétuité, mais quelque chose vraiment de grave. Que la justice soit rendue parce que c'est une gamine quand même de 21 ans.
Hier, des fleurs ont été déposées sur les lieux du drame.
Voilà, et quant à l'auteur présumé des coups mortels, il nie les faits en garde à vue. Assassinat et tentative d'assassinat, ça c'est l'homme soupçonné d'avoir tué une personne et blessé 8 autres avec son couteau samedi à Villeurbanne qui a été mis en examen. Le diagnostic des psychiatres à son égard conclut à un état psychotique envahissant. Jair Bolsonaro n'ira pas au sommet régional sur l'Amazonie ce vendredi en Colombie. Officiellement pas pour des raisons politiques mais médicales. Il doit subir une nouvelle opération 2 jours plus tard, la 4e depuis son agression au couteau pendant la campagne. En revanche, il a bien l'intention d'aller défendre sa position à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. J'irai, quoi qu'il en soit, même en fauteuil roulant ou sur un brancard, dit-il. Et l'Amazonie, c'est aussi la France, la Guyane en l'occurrence, où la forêt est menacée par l'orpaillage sauvage, souvent le fait de Brésiliens et de Surinamais qui coupent les arbres, creusent la terre et y déversent des centaines de litres de mercure, seulement freinés par les militaires français qui font ce qu'ils peuvent. Là-bas, reportage sur place, signé Célia Quéret.
On est sur un ancien site d'orpaillage illégal, en haut de la montagne Chawari. Je suis le lieutenant Augustin. Le but, c'est bien de dissuader les orpailleurs illégaux de revenir mener des travaux sur le site.
Sous un déluge, les militaires de l'opération Harpie grimpent dans la boue, traversent des ruisseaux. Ils tentent de protéger cette forêt située à Cacao. Une mission très périlleuse pour le lieutenant-colonel Villeray de la gendarmerie de Guyane.
L'essentiel de notre renseignement, on l'obtient par voie aérienne qui nous permet de repérer les sites depuis la troisième dimension. C'est en 2018, 1300 missions qui ont été conduite en forêt. Et tout ça se fait bien évidemment en grand coup de personnel et de sueur, et parfois de sang.
Et en effet, 3 soldats sont morts en Guyane en juillet lors d'une opération de ce type. La lutte contre l'orpaillage est acharnée. Les agents de l'Office national des forêts, comme Jean-Luc Sibyl, voient bien que la forêt guyanaise est éventrée.
On le mesure totalement. L'impact sur la forêt de l'orpaillage, qu'il soit illégal, mais on l'a vu aussi là-bas comme sur le légal. Une fois qu'il n'y a plus d'arbres, il y a des érosions. Et les érosions donc emportent la terre, emportent le sol. Et donc la forêt ne pourra pas se reconstituer comme elle était auparavant.
Chaque année en Guyane, 500 à 1000 hectares de forêts primaires disparaissent. Pauline Aloïke est une jeune amérindienne d'un village proche du fleuve Maroni. Elle s'oppose à toute activité d'orpaillage.
La Guyane, c'est une grande forêt qu'on doit préserver. C'est surtout là qu'il y a plus des Amérindiens. Déjà qu'on n'est pas nombreux, on a besoin de cette forêt-là pour vivre, quoi.
Et selon les militaires, il reste toujours 7000 orpailleurs illégaux en Guyane. Le phénomène est très difficile à éradiquer.
Célia Kiré dans la forêt amazonienne de Guyane. On la retrouvera cet après-midi dans la tête au carré de Mathieu Vidard. Dans la terre au carré, pardon, de Mathieu Vidard. 10 000 euros le mètre carré à Paris. Le logement est rare et cher, y compris pour les locations. Et surtout en ce moment où tous les étudiants qui arrivent dans la capitale cherchent un point de chute, comme Virgile, qui se casse les dents sur tous les appartements qu'il visite avec sa mère, Rémi Brancato, les a rencontrés au cours de leur tournée.
Sur le trottoir de la rue Oberkampf, ils sont une trentaine venus visiter un 15 mètres carrés.
On n'a plus qu'à repartir et voilà, on n'arrive pas à trouver.
Sylviane et son fils Virgile, 17 ans, viennent de Touraine pour rien. Pour la troisième fois depuis juillet, la visite est annulée. Un simple mot accroché sur la porte de l'immeuble.
C'est un peu vexant parce qu'on a l'impression qu'on est jugé quand on dit qu'on n'a rien trouvé, comme si c'était de notre faute.
Qui vous a dit ça?
Un propriétaire. Vous attendez vraiment la dernière minute? Vous savez, je cherche depuis le 13 juillet.
Et le temps presse. La première année d'histoire et d'allemand à l'université commence jeudi.
On envoie des mails mais on n'a pas de réponse. Très peu de propriétaires mettent leur téléphone. Quand il y en a, les boîtes sont saturées tout de suite, on n'arrive pas à les avoir au téléphone. On est venu au mois d'août, là, c'est pareil, on avait une visite. Il avait 20 personnes qui visitaient le même logement. Il avait dit, oui, je vous recontacte pour dire qui j'ai choisi.
On ne nous rappelle pas, c'est pas très agréable, quoi. Nous, on veut juste étudier et en fait, on n'est même pas capable de trouver un logement.
Pourtant, sa mère a passé des centaines d'appels, réuni tous les documents exigés. Ses parents vont payer le loyer, mais ça ne suffit pas.
Ils ne nous considèrent pas comme des garants. J'ai deux autres garants en plus maintenant. Moi, c'est ma maman, c'est la famille proche.
Et les proches, l'étudiant risque d'en avoir besoin.
J'ai des contacts sur Paris et je sais que je pourrais toujours être accueilli.
Enfin, moi je dis, ça peut être un mois maxi.
En espérant que d'ici là, des appartements se libèrent dans la capitale.
Il est 8h13, Florence. Leurs voitures d'occasion étaient de vraies épaves.
26 garagistes et un expert au tribunal d'Evry depuis hier qui ont remis un millier de véhicules en circulation entre 2014 et 2016, dont certains ont été déclarés dangereux et ne peuvent plus rouler. Il y a 114 plaignants dans cette affaire, comme Sylvie qui s'est fait avoir sans s'en douter.
Quand j'ai acheté ce véhicule, j'avais consulté un petit peu l'Argus. Ils étaient complètement dans les tarifs, donc c'était pas plus alléchant ou quelque chose d'inquiétant. Simplement, c'était à côté de chez moi et c'était un garagiste, donc j'avais toute confiance. Pendant 2 ans, j'ai utilisé mon véhicule, j'ai promené mes enfants, je l'ai utilisé pour aller travailler, enfin le quotidien. J'avais confiance dans le contrôle technique et j'ai payé une carte grise, donc je pensais que le réseau était complètement sain et honnête. Et en juin 2017, j'ai reçu un courrier du ministère de l'Intérieur m'indiquant que je ne pouvais plus utiliser mon véhicule. Il fallait que je contacte des assurances pour faire une expertise. Et suite à cette expertise, mon véhicule a été déclaré comme faisant partie des épaves, comme une épave.
Sylvie au micro d'Alexandre Berthaud de France Bleu Paris. Elle demande comme les autres plaignants à être indemnisée. J'ai été très bon, j'ai frappé très fort, j'ai donné un bon spectacle. Content de lui, Gaël Monfils qui s'est qualifié dans la nuit pour les quarts de finale de l'US Open de tennis. 3-7 lui ont suffi face à l'Espagnol Andújar. Le prochain adversaire à battre s'appelle Matteo Berrettini. Il est italien et il est moins bien classé que Gaël Monfils. Qui sera du voyage et qui n'en sera pas à moins de 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby au Japon? Jacques Brunel a donné la liste du 15 de France hier soir. Picamol en sera pour son 3e mondial, mais pas Félix Lambet. Voilà pour les surprises de cette sélection. Enfin, on ne s'en lasse pas. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, célébrés 50 ans après cet été. On croyait qu'on avait vu toutes les images de la NASA. On se trompait, il en reste encore, qui n'avaient jamais été exploitées et que Todd Douglas Miller a réuni dans un documentaire qui sort demain. Il nous plonge au cœur de la mission Apollo 11. Jacqueline Pétrose.
On reste ébahi devant ces images d'une qualité exceptionnelle, tournées en 70 mm et en haute définition, dont la plupart ont été à l'époque rognées pour la diffusion télévisée. Le réalisateur et ses équipes ont retrouvé 50 bobines non ou peu exploitées et 11 000 heures d'enregistrement de bandes audio des conversations entre la NASA et Apollo. On est stupéfait par l'arrivée sur le pas de tir de la fusée Saturne, incroyable masse avançant mètre par mètre. On se glisse dans l'immense salle de contrôle aux côtés de centaines d'ingénieurs et de contrôleurs fébriles, tous en chemisette blanche. Et on entre dans le Saint des Saints où s'habillent les astronautes. Todd Douglas Miller, le réalisateur.
Les détails des images que nous avons regardées, c'était du jamais vu. On était trois ou quatre dans la pièce, sans voir. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'était les émotions sur leur visage. On pouvait ressentir l'importance de ce qu'ils allaient accomplir.
Tout est fascinant. Les images de millions d'Américains sur les plages qui suivent l'exploit, le signal d'alarme à l'alunissage, le périple du caisson de quarantaine sur un train. En 50 ans, on a vu beaucoup d'images, mais là, nous vivons l'histoire à nouveau en temps réel. Spectaculaire.
Eh ben, on remercie Jacqueline Petros qui nous donne envie d'y aller. Apollo 11, documentaire signé Todd Douglas Miller. Alors, par contre, méfiez-vous, c'est du 4 au 8 septembre au cinéma seulement.
Merci Florence Paracuelos.